nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Pas vraiment. Franck lui dit, t'en fais pas, maman. Je vais nous occuper de notre petit frère. Et s'il veut, nous irons jouer au casino. Denise lui dit, c'est peut-être pas une très bonne idée, Jean-André dit pour l'embêter, mais j'accepte volontiers, je ne suis jamais allé au casino. Franck lui dit, tu vois, maman, tu n'y connais rien aux jeunes. Charles-André se dit, bien fait, en plein l'ingensif de la vieille. Il voit que Virginie le regarde gentiment, la trouve jolie et réservée. Oui, mais si vous me payez la mère pour avoir la fille, tiens, depuis que je la connais, celle-là, je me mets à penser d'une façon grossière. Termine son verre, les autres aussi, se lève et dit, pardonnez-moi, mais je dois rentrer maintenant. Denise lui dit, mais vous venez tout juste d'arriver. Vous avez encore le temps. Vous ne travaillez pas le matin. Il lui dit, vous, oui, mais moi j'ai à écrire. Ah, et qu'est-ce que vous écrivez? Je ne sais pas encore, je me tente. Peut-être une histoire de voleurs, mais voleurs du monde, qui volent dans les villes d'eau. Elle lui dit, ça va être très intéressant. Il faudra que vous me le fassiez lire. Certainement pas. Il faut jamais rien faire lire avant que ce ne soit fini. Elle lui dit, même à moi? Oui. Eh bien alors, vous me ferez lire un de vos livres. Virginie dit, à moi aussi. Et elle lui répond, bien sûr mademoiselle, excusez-moi mais je dois partir. Ils se lèvent tous et leur accompagnent vers la sortie. Avant qu'ils ne partent, il leur dit au revoir. Et Denise, devant ses enfants pour montrer qu'elle lui appartient, essaie de l'embrasser. Il se dégage. Franck rit. Charles-André part. Ouf! Arrivé chez lui, Apolline l'attend. Il lui dit, « J'étais chez Denise, elle m'a présenté ses enfants. » Elle lui dit, « C'est normal puisqu'elle veut t'épouser. Elle va te mener chez une mère sans que tu t'en rendes compte. »« Arrête, je t'en prie. Je me laisserai pas faire. Bon, nous mangeons ?» Après manger, il s'est enfermé dans sa chambre car il veut essayer d'écrire. Mais c'est pas facile avec tous ses ennuis. Cette fois, il aimerait écrire une histoire d'une façon simple et comme la vie. Ne pas faire de belles phrases pour de belles phrases, le beau pour le beau. Faire réel, réaliste. Si on a un homme du peuple, illettré, ne pas le faire parler comme un illettré. Un enfant doit parler comme un enfant, etc. C'est bien joli une belle phrase, mais si ça sonne faux ou si ça ne correspond pas à ce que l'on veut décrire, cela rend ridicule. C'est comme au théâtre. La plupart des acteurs ont l'air de jouer faux parce que ce qu'ils récitent, c'est trop littéraire. Et la plupart du temps, ils ont des difficultés à dire ces textes si beaux, si loin du réel. Alors ils prennent un regard qui semble illuminé et entrer dans ce qu'ils disent en eux-mêmes, regardent dans le vague et de loin, sont en extase. Personne dans la vie prend ses airs comme ça et se met à débiter des choses comme ça. Ça sonne faux. Faire parler une bergère avec de belles phrases et quelquefois en vers, c'est tout à fait ridicule. Une bergère, c'est une femme simple qui n'a pas été à l'école, qui ne peut pas parler comme ça, qui connaît que très peu de mots. Il ne faut pas croire que si elle aime la nature, elle a envie d'en parler. La plupart du temps, comme tout le monde, elle ne fait pas attention à ce qui l'entoure. Et c'est tout naturel de les voir. Et si elle en parle, c'est d'une façon simple, pratique, non poétique, surtout pas en vers, et avec des mots simples. Elle ne s'extasie pas. Les gens non cultivés du peuple sont pratiques. Ils s'intéressent surtout à ce qui est utile à leur vie. Bien sûr, il y a des exceptions. De temps en temps, ils aiment bien entendre une belle histoire qui doit être dite d'une façon simple et jouée avec la simplicité populaire primaire. Faire pleurer, rire, émouvoir par des choses compréhensibles au premier degré. Le contraire de l'intellectuel. C'est pour cela que les intellectuels ont des difficultés à faire vivre, parler, décrire les gens du peuple, parce qu'ils sont trop intériorisés et que pour dire des choses, ils cherchent avant tout à les dire d'une façon belle pour le plaisir de la belle phrase. Voilà ce qu'en pense Charles André. C'est bien d'avoir une idée de roman réaliste comme la vie, mais il faut trouver un sujet. Et malheureusement, de sujet, il n'en a pas. Trop agacé par Denise, ce qui l'empêche de réfléchir. Il n'a rien, la page blanche. Il a décidé d'écrire chaque jour 10 pages, car il veut écrire un gros roman. Pourtant, un roman a été refusé. Oui, mais il se dit que s'il écrit un livre de nouvelles, il faudra qu'il trouve plusieurs sujets de nouvelles, tandis qu'avec un roman, un sujet suffit. Et comme la recherche d'un sujet, c'est plus difficile. Il passe ses nuits devant sa feuille blanche, mais rien, rien, rien. Un soir, il retrouve Denise à la sortie du lycée. Elle lui dit, Vous m'accompagnez ? Elle le prend par le bras. Il se met en marche. Jean-André se sent fatigué. Le roman commence à l'énerver. Elle lui dit : vous savez, maintenant que j'ai dit que nous étions fiancés, nous sommes plus libres. Elle le serre encore plus près d'elle. Il sent la chaleur de son corps. Arrivée en bas de son immeuble, elle lui dit : vous pouvez monter si vous voulez. Les enfants sont absents. Charles-André se sent fermement tenu, lui répond : je ne sais, j'ai affaire. Elle sent sa mollesse et veut en profiter. Montez une minute. Nous pourrions être tranquilles. Elle ouvre la porte de son immeuble. Et le fait passer devant. Vite, elle entre et ferme la porte. Ça a été si vite qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Il monte les étages. Il se dit : je ne reste pas longtemps. Un verre et bonsoir. Elle va ouvrir la porte de son appartement.
Entrez.
Elle sourit. Enfin, il est chez elle, ce grand beau garçon. Vite, enlevez son manteau.
Le poser sur une chaise.
Et vite, parce qu'elle sait qu'il faut qu'il n'ait pas le temps de penser. Elle fonce sur lui, se plaque contre lui, met la main sous son manteau et le caresse. J'ai envie de toi, mon beau bébé. Il n'ose pas se dégager. Elle met sa tête sur son épaule. Il sent ses mains qui le caressent, son corps contre le sien, ses formes. Les mains de Denise descendent, palpent les fesses. Cela le chauffe. Il commence à bander malgré lui. Puis une main lui touche sa verge en érection. Ah. Elle lui dit : viens. Il se dégage. Mais elle laisse la main sur la verge et le guide vers le lit. Lit défait.
En quelques secondes, elle se couche, le plaque contre elle.
En faisant basculer : vas-y mon poulain, vas-y. Elle lui met les mains sur ses seins. Il les sent, les palpe, elle frémit et se tartille dans tous les sens. Puis se soulève, pose la main sous sa robe. Il sent le bas, la chair douce et un peu molle. Mais en montant les cuisses, elle est de plus en plus chaude. Il met la main entre les jambes. Puis nerveusement, il lui enveloppe la robe. Elle frémit, se raidit et lui dit : attends, ferme la lumière. S'il te plaît. Il se redresse, il va fermer la lumière du plafonnier et retourne vers elle. Il se déshabille en vitesse. Elle voit, grâce au volet mal disjoint, la blancheur de son corps et son sexe en érection. Un beau corps de jeune homme. Cela la rend folle. Elle se déshabille et lui crie : viens. Il se jette sur elle. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait l'amour. À part se masturber avec sa sœur, c'est fini. Qu'il en a le vertige. Il a l'impression qu'il va perdre connaissance. Il sent que pour elle, c'est la même chose. Il se dit que cette vieille jument a encore la peau très douce. Quoique un peu molle. Mais qu'elle est encore baisable. La garce, la salope, tu en veux, tu aimes ça. Oui, fais-le-moi, vas-y, oui, oui. Tu aimes, hein. Oh oui, oh oui. T'es un sacré morceau. Eh bien, ma vieille, toi, hein. Bonne ça. Tu tout de même, ça sert à quelque chose, hein. Oh oui, vas-y. Attends. Je sens que je vais jouir. Retiens-toi. Il ne peut pas. C'est trop fort. Il se sort pour finir sur les draps. Ça a duré une demi-heure. Et encore, s'il n'avait pas été obligé d'éjaculer, elle en aurait encore voulu plus. Il est épuisé, en sueur, couché sur le ventre, à côté de cette chose. Il le regarde bien et voit que c'est un gros tas de chair blanche avec une masse de cheveux en désordre. Cela le dégoûte et se demande comment il a fait pour avoir du plaisir avec ce machin. Elle lui dit, « Mon petit trésor, tu vas t'habiller dans le couloir. Moi, pendant ce temps, je vais m'habiller ici. Surtout, ne traîne pas et fais vite, les enfants risquent de venir. » Il se lève, prend ses vêtements à terre et sort de la pièce. Elle ne veut ni qu'il éclaire, ni qu'il s'habille devant, ni s'habiller devant lui. Elle a honte de montrer son corps de femme déjà passé. Une fois qu'il est habillé, il frappe à la porte de la pièce. Entrez. Elle est tout habillée, coiffée, son visage dans la pénombre, lumière tamisée. Elle va vers lui, se penche son cou et l'embrasse. Puis elle lui dit, « Merci, tu m'as prouvé ton amour. Tu m'aimes, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr. Comment dire non après ce qui s'est passé ?»« Mais tu parles d'une preuve d'amour. » Si elle n'avait pas mis sa main sur sa verge, il ne se serait rien passé. Elle lui dit, « Tu sais, nous serons très heureux ensemble. Et puis, mes enfants sont très gentils et intelligents. Je suis sûr que tu pourras aider mon aîné, qui est très intelligent, à trouver du travail plus tard. » Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit, « Oh, si tu savais comme j'ai été heureuse, j'ai eu l'impression d'être redevenue petite fille dans tes bras. » Il se dit, « Si petite fille était comme elle l'a été, elle serait toute de vraies garces. Et toi, mon chéri, tu as été heureux ?» Oui, il ne peut pas dire non, mais cette joie qu'il a eue lui donne envie de vomir. Il n'ose pas la regarder en face. Elle lui dit, « Il faut que tu t'en ailles maintenant, les petits risquent de venir. » Il se dirige vers la sortie. Avant qu'elle n'ouvre, elle lui donne un baiser. C'est un baiser de trop, car il a eu le temps de voir son visage. Un visage déjà ratatiné. Comment ai-je pu avoir envie de l'embrasser, de la désirer? L'homme dans ces moments-là est... une vraie bête. Une fois dehors, il respire, il fait nuit noire et il pleut, une pluie froide. Il marche un bon pas, encore fatigué. Kelinge a voulu de nous installer ici. Peut-être que l'année aurait été moins pénible sans cette vieille truie. Le lendemain, elle est là, à la sortie du lycée. Elle lui dit, « Comment vas-tu ? Moi, je pense constamment à toi. J'ai envie de toi. Et toi ? Moi aussi. Que dire ? Quelle saleté d'éducation qui vous empêche d'être goujat. Mais heureusement, peut-être pas un criminel. » Elle lui dit, « Tu m'aimes ? Tu le dis si gentiment. On sent que tu es sincère. Et que tu le dis pas comme ça en l'air. Dis-moi que tu m'aimes. N'aie pas honte de me le prouver. Allez, dis-le-moi. » Regarde autour de lui. Il a honte. Les élèves passent devant eux. Ils se disent qu'ils doivent entendre cette folle. Elle lui dit, « Dis-le-moi. » Oui, elle sourit, heureuse. Il lui prend le bras et lui dit, « Tu me raccompagnes jusqu'à chez moi. » Il la raccompagne. Il se dit que les gens doivent le prendre pour la mère et le fils. Le temps passe, la vieille a bien tissé sa toile. Elle a pour ainsi dire officialisé ses relations avec Charles-André. Elle a excité sexuellement. Elle sait que tout comme tous les jeunes gens, il ne peut pas résister à la chair. Qu'il suffit de lui mettre la main là où il est faux, là entre les jambes, et hop, la chose se met en marche toute seule. Elle sait, en marchant, se plaquer contre lui pour qu'il sente sa chair, ses formes. Elle sait l'embrasser. Elle sait qu'au bout d'un certain jour, elle ne peut résister à l'invite de monter chez elle pour assouvir ses désirs. Elle connaît bien les hommes, c'est une spécialiste. Et lui, le pauvre, ne connaît pas assez les femmes. Une fois, au lit, sur ce cœur, il ne se reconnaît plus. Une vraie bête. Et elle peut lui faire dire après n'importe quoi, car il n'ose pas, après ce qui s'est passé, la contrarier ou la dénier. Le sens de l'honneur du petit homme, et cet orgueil idiot qui fait le mal. Elle sait tout ça, la garce. L'on dit égalité des sexes, mais il faut plutôt dire des hommes que la chose est inégale. La femme détient tout le pouvoir sans en avoir les inconvénients. Charles-André ne parle pas de tout ça à sa sœur, par honte. Elle se rend compte que ça ne va pas, parce qu'il est irritable. Les jours passent. Un soir à la sortie du lycée, Charles-André sort toujours accompagné par Denise. Il va arriver vers eux, Franck. Salut. Denise lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, je suis venu vous dire un petit bonjour. Et puis, j'aimerais faire visiter le casino à Charles-André. Charles-André lui dit, oui, c'est une bonne idée. Denise leur dit, alors, allons-y. Franck lui dit, non, laisse-nous entre jeunes. Denise fait la grimace. Charles-André lui dit, « Oui, laisse-nous !» Elle lui répond, « Bien, bien !» Et le lâche. Charles-André, soulagé, va vers Franck, tout heureux d'être libre. Elle les quitte. Franck conduit au casino. Il lui dit, « Heureusement que tu es habillé correctement, autrement on n'aurait pas pu rentrer. » Ils entrent au casino, lui fait visiter les différentes salles et lui explique le jeu. Ou les jeux plutôt. Charles-André voit qu'il y a beaucoup de femmes du monde habillées en robe du soir. Il trouve certaines extrêmement belles et très élégantes. Denise, à côté, c'est une grande... Ce n'est pas grand-chose. Elle ressemble à une petite bourgeoise de banlieue. On voit aussi qu'elles ont des bijoux magnifiques et dépensent beaucoup pour jouer. Franck l'observe et lui dit « Il y a un peu du fric, hein ?»« Oui. » Franck lui dit « Si une de ces femmes pouvait s'occuper de moi, cela fait rêver, Charles-André. » Malheureusement, il a Denise. Quoique, on ne sait jamais. Franck le fait jouer à la roulette. Il se laisse guider par le jeune homme qui semble bien connaître la chose. Lui, Charles-André, n'y comprend pas grand-chose. L'on parie pour des couleurs, des chiffres. Un espèce de râteau ramasse les jetons et il ne reste plus rien et ça recommence. Il entend et rien ne va plus. Les mains qui déposent des plaquettes sur le tapis, etc., etc. Au bout d'un moment, Franck lui dit « Viens, on a assez joué. » Charles-André n'a rien compris, mais il a vu le luxe des joueurs. Avant de quitter les lieux, ils vont au bar boire quelque chose. Franck lui dit « J'aimerais être coupé. Tu as vu tout ce qu'on leur laisse ?» Non, Charles-André n'a rien vu. Une grande et belle jeune blonde en robe du soir blanche avec un collier et des boucles d'oreilles, bracelet en or, vient s'asseoir à une table en face d'eux. Elle ne cesse de regarder Charles-André. Le serveur s'approche d'elle. Elle commande. Charles-André l'observe. Il se dit « Voilà une belle femme dans les 25 ans. » Le serveur revient avec une bouteille de champagne. Franck, qui le voit, lui dit « Belle fille, hein, j'aimerais bien tenter le coup. » Il termine son verre et dit à Charles-André « Tu viens ? Quoi ? Viens, on va vers elle. Non, moi j'y vais. » Et il se dirige vers la femme. Charles-André le regarde. Il voit qu'il parle à la femme. Puis il fait signe à Charles-André de venir vers eux. Charles-André y va. Franck lui dit « Hula s'ennuie et veut bien de notre compagnie. » Elle leur dit « Asseyez-vous. » Ils s'assoivent. Elle leur demande « Vous voulez du champagne ?» Franck fait « Oui. » « Bien, alors une bouteille de champagne et deux verres. » Le serveur qui a entendu va chercher. Elle leur dit « Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en vacances? Des joueurs professionnels ?» Franck lui dit « Et ni l'un ni l'autre. » Nous sommes de Monaco et nous sommes venus ici nous distraire et voir les belles filles. Elle lui dit, moi en villégiature. Charles-André lui demande, et vous venez d'où? De la seule ville digne de ce nom, Paris. Mon mari s'occupe de l'import et sport, il a des bateaux. Pendant qu'il s'occupe de ses affaires, je tâche de m'occuper de mon côté. Je suis venu à Monte Carlo avec des amis. Malheureusement, il passe leur temps à jouer. Je rentrerai bien chez moi à Paris, mais mon décorateur n'a pas fini avec mon appartement. Franck lui dit, là vous vous ennuyez. Oui, et le champagne ne suffit pas. On leur apporte la bouteille et deux verres. Franck lui dit, vous pourrez peut-être aller quelque part. Elle dit à Charles-André, votre ami est rapide pour un jeune homme, il sait ce qu'il veut. Malheureusement je ne peux pas, je dois rentrer directement à mon hôtel. Charles-André sent la jambe de la femme frôler sa jambe et le pied se mettre sur le sien. Il fait celui qui ne sent rien pour ne pas attirer l'attention. Il lui demande « Vous habitez à quel hôtel ?» Elle lui dit « Le Royal. » Elle se lève et leur dit « Il faut que je vous quitte malheureusement. Vous appelez comment déjà ?» Il se lève, Charles-André lui dit « Charles-André Beaumandin. » Franck sommet. Hula Chapson. « Bonsoir, messieurs. Je vous en prie, restez, finissez la bouteille. » Elle s'éloigne. Avant de quitter le bar, elle se retourne et regarde bien les yeux de Charles-André qui comprend. Il se rassoit. Franck lui dit « Quelle belle fille. J'aurais bien aimé aller dans sa chambre. » Charles-André lui dit, malheureusement, Elle ne vous a pas invité. Après avoir bu, ils en sont retournés. Charles-André a raccompagné Franck jusqu'à son immeuble. Il lui a dit « Salut, tout de même je dévergonde mon beau-père. » Si ma mère savait ça, Charles-André aux épaules lui dit « Si tu veux, tu peux le lui dire. » « Non, surtout pas, elle m'en voudrait trop. » Charles-André lui dit « Je serai peut-être débarrassé. » Franck rentre dans son allée. Charles-André tourne en direction de l'hôtel. Il ne va pas donner le numéro de sa chambre, malheureusement. Tant pis, il verra bien. Il est entré dans le hall de l'hôtel, qui est encore éclairé. Il y a le concierge à Charbanque, il va vers lui et lui demande « Bonjour monsieur, j'aimerais besoin de leurs renseignements. J'ai rendez-vous avec madame Ulla Chapson, mais je ne me souviens plus où se trouve sa chambre. » L'homme fronce ses sourcils. « C'est-à-dire que c'est un peu délicat, nous sommes un hôtel respectable. » Charles-André met un billet sur la banque. L'homme le prend. « Vous êtes sûr que cette dame vous attend ?» « Oui, parce que je risque ma place, vous comprenez ?»«
Vous ne risquerez rien du tout, je vous l'assure. »«
Bien. » Il regarde dans son registre. « Chambre 203, deuxième étage. »« Mais je ne vous ai rien dit. »«
Ne vous en faites pas. »
Et Charles-André s'éloigne. Arrivé au deuxième étage, le couloir est vide. Il trouve la chambre 203. Hésite un moment et frappe. Pas de réponse. Il frappe encore une fois. Et se dit, tant pis, ce doit être une allumeuse. Il attend un peu.
Oui.
Il répond, je suis Charles-André, la personne de tout à l'heure. Elle entrebâille la porte. Il voit qu'elle est en chemise de nuit. Elle le regarde et dit avec le sourire tout doucement
« Ah oh oui, c'est vous !»
Elle ouvre la porte plus grand, tend le bras et le fait entrer, puis ferme la porte. Elle se pend à son cou et lui dit
« Alors mon gros loulou, je savais que tu allais venir !»
Il sent contre lui ce corps sous sa chemise de nuit. Il sent son corps doux, cette odeur, ses formes. Cela l'enivre. Mon chat. Elle l'embrasse sur les lèvres et, tout en le maintenant, elle le guide vers le lit, s'allonge et lui dit « Viens !» Plein de désir. Il se déshabille, s'allonge sur elle, la couvre de baisers. Il ne sait plus ce qu'il fait, la tête en feu. La tête appuyée sur la poitrine de la belle Ulla. Son corps plane et s'enivre de cette douceur.
Deux heures plus tard, il fait encore nuit. Regarde l'heure qui est sur la pendule de la cheminée. Il secoue légèrement la jeune femme et lui dit « Ça fait tard, je dois rentrer. » Elle lui dit
« Laisse-moi dormir. Je dois t'en faire de bruit. »
Il lui demande « Où se revêque quand ?»«
Je ne sais pas. Je suis tous les soirs au casino. »
Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Elle se soulève, l'embrasse et lui caresse ses cheveux.
Tu es gentil petit chaton, je crois que nous le reverrons, car tu sais bien faire l'amour.
Elle l'embrasse encore et lui dit,
laisse-moi dormir
et va-t'en tranquillement. Il se lève, elle se rendort.
S'habille,
en passant devant la coiffeuse, il voit une paire de boucles d'oreilles qui ont l'air d'être des brillants. Sans réfléchir, il les met dans sa poche. Il sort de la chambre. Une fois dehors, il se demande pourquoi il a fait ça. Il a envie de les jeter, mais il se dit à quoi bon, s'il sait que je les ai volés. Et puis, je pourrais peut-être les lui rendre. Arrivé chez lui, il les cache au-dessus de son armoire. L'après-midi, il va au lycée. À la sortie du lycée, Denise lui demande.
Tu viens chez moi? Mes enfants sont absents.
Il n'a pas envie d'y aller. Lorsqu'on a goûté au crive, le pigeon bien grand paraît bien fade. Puis il se dit que ce n'est pas le moment de se créer des complications. Puisqu'elle veut sa verge, elle l'aura. Après, elle le laissera tranquille un moment. Alors il lui dit, oui. Elle sourit, le prend par le bras et le mène chez elle. Un peu plus tard, une fois au travail, puisque l'excitation s'est faite d'elle-même, la chose s'est mise en route. Malgré la tension qu'il a sur ce qu'il fait, il ne peut s'empêcher de comparer les deux. Il se dit que Goldenise, malgré sa minceur apparente, est d'un autre gabarit. Ses formes ne sont pas les mêmes, plus rondes. La peau est molle, mais aussi rugueuse, et même aux endroits les plus mous, comme les fesses. Ce n'est pas très agréable. La rondeur de sa taille le surprend. Ses seins sont beaucoup plus gros et mous. Les cuisses lui paraissent énormes et sont ridées en haut. Le ventre est rebondi et flasque. Ses poils commencent à être comme de la paille. Quant au visage, ils ne peuvent être comparés. Voilà à tout ce qu'il pense et se dit. Qu'il est un imbécile d'avoir une liaison avec une femme de son âge, que dans 5 ans elle risque de ressembler à une vieillarde et que lui n'aura pas atteint sa maturité. Et puis Quel idiot, lui qui pourrait avoir eu là. Une fois que la chose est faite, finie, la vieille truie a bien poussé ses cris et se dit qu'il en a assez, que c'est la dernière fois. Avec un bout de drap, il se nettoie sa verge.
Et se lève. Et lui demande, tu pars déjà? Oui. Il s'habille. Tu pars comme ça, sans même chérie me dire au revoir? Mais si j'allais le faire? Elle se lève.
Elle n'a même plus la pudeur de cacher son corps. Vite, il termine de s'habiller. En se demandant comment il a pu faire avec cette femme. Décidément, l'homme est une vraie bête. Elle se prend à son cou. Il met sa tête sur son épaule en lui disant que je suis heureux si tu savais. Grâce à toi, j'ai jamais été aussi bien. J'ai hâte que l'on soit marié. Il lui dit furieux, mais j'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Je ne t'ai rien promis. Elle se dégage et le regarde. Nous sommes fiancés. Il lui dit, c'est toi qui as dit que nous étions fiancés avant que je le sache. J'étais bien obligé. Tu m'avais fait une mauvaise réputation. C'est toi qui t'es faite en venant constamment me voir. Elle lui dit furieuse. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Il lui dit. C'est pas tout à fait exact. C'est plutôt toi qui me l'as dit. Et j'ai pu faire autrement que de te dire oui. C'est ça. Tu m'as dit oui que tu m'aimais. Et dire que tu as fait ça pour me séduire. Parce que tu avais envie de coucher avec moi. C'est faux. C'est toi qui m'as amené chez toi pour que je puisse coucher. Moi, je ne voulais pas.
Salaud, alors pourquoi l'as-tu fait?
Tu sais très bien pourquoi tu l'as fait.
Non.
Il aimerait la gifler. Et lui dit, si on met la main entre les jambes d'un homme, il ne peut faire autrement.
Tu n'es qu'un goujat à personnage. Et dire, je me suis donné corps et âme à ce goujat et que je lui ai présenter mes enfants et qu'il est sorti avec mon fils, mes enfants, avec un dévergondé.
Oh, écoute, tes enfants sont adultes et à peu près le même âge que moi. Tu pourrais être ma mère, et largement.
Menteur, à 32 ans, tu crois que l'on peut avoir un fils comme toi?
Laisse-moi rire, plutôt 50. Allez, je m'en vais. Et elle sort, elle lui crie.
C'est ça, monsieur me traite comme une pute. Après avoir fait, il part. Mais les putes, elles reçoivent de l'argent. Moi, je ne suis rien. Rien pour toi.
Il quitte la pièce et l'appartement.
Ouf.
Dehors, tout en marchant, il se dit, je ne reverrai plus jamais ces gens. Ouf! Le lendemain, au lycée, il est convoqué par le directeur. Il y va.
Entrez.
Il voit Denise avec le directeur. Il a envie de fuir. Le directeur lui dit « Venez vous asseoir, monsieur Bonlandin. »
Il va s'asseoir sans regarder Denise.
Le directeur lui dit « On m'apprend, c'est que vous rompiez vos fiançailles avec madame, avec qui vous n'avez cherché qu'à la séduire. » Des Français, toujours les mêmes. En agissant comme ça, vous avez porté atteinte à sa réputation. Surtout qu'il y a des témoins qui vous ont vu, et même ses enfants avec qui vous avez eu des rapports très amicaux. Madame Sommet, grâce à tous ces témoins, peuvent demander des dommages et intérêts. On n'agit pas de cette façon, monsieur. Contremettre une femme devant tout le monde, à son travail, devant sa famille aussi, et dehors. Vous devez des réparations. J'aimerais mieux, c'est que vous ayez eu une petite brouille et que vous vous réconciliez, une dispute d'amoureux, cela ne porte pas à conséquence. Êtes-vous prêt à vous réconcilier, madame? C'est-à-dire, après ce qu'il m'a dit et ce qu'il a fait, j'attends des excuses. Monsieur Bonlandin, Madame Sommet est prête à pardonner si vous lui donnez des excuses. Charles André n'a pas du tout envie de s'excuser du craquenard où on l'a mis. Le directeur lui dit, bon, eh bien, je me vois dans l'obligation de vous renvoyer. Je ne peux garder une personne dans mon établissement qui crée du scandale par ses mœurs. Alors, monsieur, Charles-André ne dit rien. Le directeur lui dit, bien, je vois une forte tête. Je vous plains, madame. C'est pas possible à la fin. Vous séduisez une honnête mère de famille, comme la dernière des dernières, puis vous la laissez tomber. Et dire qu'un homme de votre rang, oui, je me suis renseigné. Votre famille est une belle famille. Quelle honte! Un fils comme vous. Charles-André a l'impression d'être dans un cauchemar où on l'accuse de ce dont il est victime. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.